Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Parole d'Histoire. Podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin et avant tout je m'excuse pour cette voix un peu bizarre que j'ai aujourd'hui, mais j'ai un petit truc au nez, ce qui fait qu'il est complètement bouché, d'où ce timbre un peu bizarre. Je suis donc d'autant plus ravi d'avoir quelqu'un pour m'épauler dans cette difficulté et ravi de vous retrouver André Loez pour parler de l'armée rouge, c'est-à-dire de l'armée de ce qui va devenir le RSS en 1922 jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après on parle plutôt d'armée soviétique. Et pour ce faire, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand spécialiste français du sujet qui a publié tant et plus sur cette armée rouge. On a attendu quand même 15 épisodes de ce format d'histoire militaire pour vous inviter, ce qui est une restreinte notable, ça aurait pu arriver bien avant. Jean Lopez, directeur de la rédaction de Guerre et Histoire, directeur aussi de la très belle collection Champs de bataille chez Perrin, dont on fait souvent des émissions ici. Vous en avez aussi écrit le premier numéro sur la bataille de Kharkov en 1942, dont vous étiez venu parler à ce micro. Et plus récemment, vous êtes aussi venu avec Michel Goya pour parler de votre histoire de la guerre d'Ukraine, l'ours et le renard.
Et donc, bonjour Jean Lopez.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez fait paraître il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, un beau livre dans tous les sens du terme, très riche, très bien illustré, L'Armée Rouge, innovatrice, libératrice, prédatrice. On reviendra sans doute sur ce sous-titre, toujours chez Perrin, en collaboration avec Guerre et Histoire. Ce sont des articles, en particulier repris du magazine Guerre et Histoire, mais pas uniquement.
Vous avez pour les aussi, trois quarts, mais voilà, le quart restant est original.
Voilà, donc une part inédite, une part reprise, beaucoup d'illustrations très très parlantes, aussi bien des infographies que des photographies, et puis cette splendide affiche en couverture sur laquelle on pourra revenir également. Alors, on s'est dit que plutôt que de raconter un tel livre du début à la fin, ce qui n'a pas forcément de sens pour un beau livre, on allait en sortir quelques points forts et peut-être passer en revue avec vous toute une série de facettes, pour certaines connues, pour certaines peut-être des idées reçues, pour d'autres qu'on va découvrir ensemble sur cette armée rouge qui a tant fait écrire, qui a été si redoutée et puis si efficace à la fois, en tout cas tardivement, mais elle a fini par l'être. Ma première question serait sur ce qu'on lit toujours partout. Trotsky, le grand créateur de l'armée rouge. Quelle est la part de vérité? Quelle est la part de mythe, de glorification du personnage? Qu'est-ce qu'on peut dire sur son origine?
La glorification, il a plutôt été vilipendé après son départ.
Ah oui, alors ça c'est sûr que dans les années 30, c'était plus vraiment la glorification. Mais il y a eu quand même une phase où c'était le grand héros, toujours en uniforme, alors, qu'on admirait.
Alors, c'est vrai, mais si on regarde plus finement la chronologie, l'armée rouge, elle est créée par divers décrets, donc celui du 23 janvier 18 qui est signé Lénine. Elle est créée une première fois, et je dirais pour moi, elle est créée une deuxième fois en mars. Et Trotsky n'apparaît que dans cette deuxième armée rouge de mars. Je vais m'expliquer. La première armée rouge, donc celle qui naît un peu dans l'urgence en janvier 18, en réalité n'est pas une armée au sens où l'entendent les Occidentaux, c'est plutôt une sorte d'agglomérat inconstitué de bataillons de gardes rouges volontaires qui n'obéissent qu'à une discipline librement consentie, qui élisent leurs officiers et qui votent les ordres militaires à la majorité. Donc quelque chose de très spontané, qui ressemble beaucoup à cette armée de ministres que Jaurès avant la guerre a pu développer en France et d'autres encore en Allemagne, et qui va montrer une complète inefficacité au moment où les les pourparlers de Brest-Litovsk, donc, par lesquels Lénine essaye de sortir de la Première Guerre mondiale, hein, pour parler avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne impériale. Donc ces pourparlers sont rompus une première fois, l'armée allemande reprend son avance, et ce qu'elle trouve en face d'elle, c'est cette première armée rouge, ce conglomérat de gardes rouges volontaires. Et c'est un désastre, ils sont battus partout, ils s'envolent comme des moineaux. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Lénine, qui n'a pas de compétences militaires, même s'il a lu et a noté Clausewitz, on a l'exemplaire à noter se trouve à la bibliothèque de Moscou, Lénine a un véritable problème qui est celui de défendre les révolutions. Il y a un homme qui semble, parmi les bolcheviks, le plus compétent et probablement le plus obstiné à parvenir à ses fins, c'est Léon Davidovitch Trotsky. Pourquoi il est le plus compétent ? Parce qu'il est le seul à avoir réfléchi en profondeur aux problèmes militaires. Il a été avant la Première Guerre mondiale, correspondant du plus grand journal ukrainien qui s'appelait le Kievski Milst. Il a couvert les guerres balkaniques intégralement. Il avait une chronique quotidienne, ce qui à l'époque n'était pas un mince exploit. Et entre 14 et 16, il représente ce même journal à Paris. Et il y a divers témoignages qui le montrent très assidu à 8h du matin aux Invalides pour écouter le point de situation de Végan, puisqu'à l'époque, Végan était le porte-parole. Donc c'est un homme qui connaît, alors ne serait-ce que sous la paix journalistique, mais enfin il sait ce que c'est la guerre et ce que ça représente comme organisation. Et puis surtout, il est choisi par Lénine parce qu'il amène à Lénine la solution d'un problème central, qui est celui de la fiabilité d'une armée qui ne soit pas une armée de volontaires, mais une armée de conscription. Car on dit armée de conscription, on dit armée de masse. Si vous avez une armée de masse, ça veut dire que vous avez un encadrement. Pour que cette armée de masse soit efficace, il faut que cet encadrement soit formé. Or, il n'existe pas d'encadrement bolchevique en 1918. Il n'y a pas d'encadrement rouge. Il n'y a qu'un encadrement blanc. Donc, il faut aller chercher ces officiers blancs, ces anciens officiers du Tsar, qui ont été démobilisés par les bolcheviks eux-mêmes. Lénine s'y refuse dans un premier temps. Ça fait l'objet d'échanges extrêmement durs avec Trotsky. Et puis à un moment, il est bien obligé de se rendre à l'évidence. Et Trotsky, il y a une scène célèbre qu'on raconte dans le bouquin, où Trotsky le convainc en disant « ça peut marcher ». Si d'une part on impulse la formation accélérée des cadres rouges, mais si on fait appel aux cadres blancs qu'on a éprouvés, et surtout si derrière chacun d'eux on met un commissaire politique.
Mais parce que ça, c'est ce qu'il faut dire, enfin, c'est une des questions, mais il y a une peur fondamentale chez les bolcheviks, qui est une peur qui est déjà présente chez Marx, celle du bonapartisme, et celle du coup d'État bonapartiste, et ça, il faut le comprendre pour comprendre la structure politique de l'armée rouge des premiers temps.
Avec ce qui s'est passé en 17, avec Kornilov, qu'on a soupçonné de vouloir marcher sur la révolution. L'empêcher. L'idée qu'un général à la tête de troupe allait écraser dans l'œuf cette révolution communiste naissante était une obsession.
Chez Marx, alors, déjà.
Les bolcheviks, comme Marx, sont passionnés d'histoire française. Ils sont passionnés d'histoire française à cause de la levée en armes de 1792, à cause du coup d'État de Brumaire, à cause du coup d'État du neveu, Napoléon III.
Donc Marx était là.
Il y a vraiment une lecture bolchevique de ce problème qu'on retrouve aussi chez Jaurès, entre parenthèses. Hein. C'est la grande peur de toutes les gauches, on va dire. Hein. Depuis la social-démocratie allemande jusqu'aux bolcheviks, c'est une grande terreur. C'est qu'à l'occasion d'une guerre civile ou d'une guerre étrangère, le détenteur de la violence se retourne contre le souverain politique et s'empare du pouvoir. Donc c'est vrai que c'est une obsession des bolcheviks, d'autant plus, je vous rappelle, qu'ils ont pris le pouvoir par un putsch. Le coup d'État d'octobre-novembre 1917, qui entre parenthèses était commandé par Trotsky, hein, la partie militaire était sous la férule de Trotsky, ce qui le qualifie encore plus d'ailleurs aux yeux de Lénine, parce qu'il faut reconnaître que ça a été un coup de maître. Mais il s'agit plus de subversion et d'une insurrection très localisée que d'une véritable guerre. Donc effectivement, le problème qui fait que Lénine a un mal fou à accepter une armée de masse avec un encadrement classique, c'est le problème du bonapartisme. Alors, la solution de Trotsky, c'est donc de faire appel au volontariat des Voyenspetsi, c'est-à-dire les spécialistes militaires anciens cadres de l'armée tsariste, en les faisant contrôler strictement par des commissaires politiques. Contrôler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute unité de l'armée rouge, depuis l'état-major général panrusse, tout en haut, jusqu'au petit état-major régimentaire, va avoir une structure ternaire. Il y a un conseil, elle n'est pas dirigée par un officier, elle est dirigée par un conseil militaire. un Voensov, un conseil militaire qui est constitué de 3, parfois de 4 personnes, où il y a le commandant opérationnel, le commissaire politique, et souvent un représentant, alors là c'est très variable, au troisième membre, ça peut être le chef d'état-major, ça peut être aussi le représentant de la logistique, ça peut être un cadre régional du parti non militaire, on a absolument tous les cas de figure. Mais cette configuration doit permettre, en obligeant une contre-signature, en contraignant tout officier à faire contresigner ses ordres, sinon ils ne sont pas valables, par le commissaire politique et par le troisième larron, c'est, semble-t-il, une garantie. Ce qui n'empêchera pas les trahisons, les passages à l'ennemi, les désertions en tout genre pendant la Révolution. Hein. C'est pas une vue de l'esprit de la part des bolcheviques. Il y a, chez un certain nombre d'officiers, une tentation de jouer un double jeu, c'est incontestable. Mais néanmoins, l'appel au Voenspetz va marcher. Et ça va. Alors, au départ, c'est un appel au volontariat, puis après, c'est une conscription. On n'a plus le choix. Hein. Et on va voir arriver des hommes extraordinairement capables. Je pense à deux d'entre eux qui sont des grandes figures de l'armée rouge, qui sont d'abord Alexandre Svechin, qui a été un chef d'état-major du front du Nord sous le tsar, qui est un général, qui est un des 10 hommes les plus importants de l'armée tsariste, et qui va travailler quelque temps auprès de l'état-major pan-russe, et puis surtout qui va créer les écoles d'officiers de l'armée rouge, et qui va écrire son célèbre livre Strategia, qui est à l'origine de la découverte de l'art opératif, et qui est toute la partie novatrice que l'armée rouge amène à la pensée militaire mondiale. On va dire que c'est une mise à jour de Clausewitz pour aller vite.
Donc, je peux signaler que vous avez publié un ouvrage là-dessus, un dialogue avec Benoît Bihan, j'espère.
Exact. Et le deuxième personnage important qu'il faut signaler, qui est beaucoup moins connu que Svechin, c'est Boris Shtapochnikov, le Shtapochnikov qui, lui, était colonel du Tsar et qui va devenir une sorte de d'alter ego du chef d'état-major. Il va doubler le chef d'état-major qui est un bolchevique pur, mais il va le doubler et faire le travail à sa place. Et ce Boris Shtapochnikov sera le conseiller personnel de Staline. D'abord, il sera 3 fois chef d'état-major de l'armée rouge, c'est un record, et surtout, il sera le conseiller de Staline dans la première phase de la Seconde Guerre mondiale. Il sera des rares hommes qui pouvaient s'asseoir en présence de Staline et auquel Staline s'adressera toujours en lui donnant son prénom et le patronyme. Donc c'est une marque de déférence. Je ne pense pas qu'il l'aurait fait liquider, évidemment, sans la moindre
hésitation. Mais c'est un personnage prudent qui a remarquablement réussi à naviguer, notamment la purge de 37-38, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Je pense que sa peur l'a dévoré de l'intérieur et qu'il s'est rendu profondément malade. Il avait une santé très chancelante. Et c'est vrai qu'il... Il était comme une éminence grise, c'est-à-dire qu'il soufflait des solutions à Staline, mais il n'a jamais insisté. C'est pas Joukov, hein. C'est pas le déménageur de Joukov, le taureau de combat, c'est plutôt un cardinal. Il susurre, il a les manières ancien régime.
Joukov qui avait commencé comme sergent dans l'armée tsariste, oui. On vient pas tout à fait du même endroit quand on était colonel et quand on était sergent
c'est
à la base.
C'est exact, mais lui aussi répond à une conscription. Il n'est pas volontaire, Joukov. Ça a été longtemps dissimulé dans sa biographie, mais il répond à la conscription des sous-officiers, parce que l'armée rouge n'a pas non plus de sous-officiers, elle va en ramasser 120 000 de l'ancienne armée tsariste. Donc vous avez un encadrement supérieur et même inférieur qui est de l'armée rouge, qui est blanc à 80%. C'est une première surprise.
Alors justement, si on s'éloigne un tout petit peu de ce contexte d'urgence et de naissance de l'armée rouge et qu'on réfléchit de façon plus structurelle à la tension constitutive de cette armée entre, d'un côté, un régime qui a pour valeur cardinale l'égalité, l'égalitarisme communiste, et puis une armée qui, pour fonctionner, a besoin d'encadrement, a besoin d'une hiérarchie. On sait qu'au moment de la Révolution, une des premières revendications des soldats, c'était d'abolir les formes de déférence, de vouvoiement obséquieux vis-à-vis des officiers, de casser la distance de classe. Mais ensuite, comment ça a fonctionné dans les années 20, dans les années 30? Est-ce que l'armée rouge est devenue un peu plus démocratique que ses équivalents dans les autres pays, ou est-ce que finalement il a fallu faire une armée, c'est-à-dire une armée hiérarchique, comme partout ailleurs, sans finalement jouer le jeu de l'égalitarisme?
Alors, c'est complexe, mais en gros, le schéma est qu'on est parti d'une armée plutôt plus démocratique que les armées occidentales à la même époque, hein, où effectivement, on pouvait contester les ordres. Même dans l'armée rouge de Trotsky, on peut contester les ordres. On peut se plaindre auprès du commissaire politique, qui est responsable du ravitaillement, du paiement des soldes, du moral, de l'entraînement. On peut se plaindre sans avoir à craindre en retour des châtiments extrêmement lourds. Les peines de forteresse n'existent pas, par exemple. Hein, c'est le code de justice militaire, le premier code de justice militaire, aurait fait rigoler un adjudant de l'armée française de 1930, hein, de 1920, ça l'aurait fait rire par sa mansuétude.
Oui. La plupart des codes auraient fait d'ailleurs fait rire un adjudant français par leur mansuétude, parce qu'on était quand même une des armées les plus strictes de ce point de vue-là.
Il y avait le pire encore, c'était les Italiens, hein, qui avaient un code hérité de la monarchie de Savoie qui était extrêmement
impressif. Et qui avait Cadorna, qui était une vieille badère sanguinaire, mais
qui ont beaucoup fusillé. Qui ont beaucoup fusillé, mais je retombe sur mon armée rouge, qui ont beaucoup fusillé, mais beaucoup moins que l'armée rouge. Parce que ça, c'est la deuxième tension du ball que vous évoquez.
Pas de forteresse, par contre, de temps en temps, il y a un petit peloton d'exécution quand même.
Ouais. Mais là, on a, dès le début, il y a la nécessité de maintenir au combat une masse paysanne qui, par définition, est assez hermétique au slogan et ne va pas plus loin que son clocher. Donc très souvent, on ramasse des hommes dans une région, on a du mal à les habiller, on a du mal à les vêtir, souvent ils sont en guenille, on les nourrit, ce qui est une raison d'entrer dans l'armée rouge, et puis quand arrive la saison des travaux agricoles, pchut, cette armée s'évapore sur tous les fronts. Trotsky passe son temps à circuler avec des trains et à menacer. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la persuasion avec les camarades paysans pauvres, parce qu'il s'agit surtout uniquement des paysans pauvres, les autres ne sont pas acceptés dans l'armée rouge, on pourra revenir sur son caractère de classe. Donc, ces paysans, au bout d'un moment, il faut utiliser la force. Et Lénine, il va faire comme les envoyés en mission de la République française en l'an 2, il va commencer non pas à faire fonctionner la guillotine, mais à fusiller. À fusiller, à mettre à l'arrière des unités des bataillons d'arrêt. En fait, tout ce qu'on a reproché à Staline, il faut reconnaître que c'est Trotsky qui l'a mis en place le premier.
Les bataillons, d'arrêt, évidemment, pour fusiller, pour exécuter les hommes qui font demi-tour.
C'est-à-dire derrière la dernière ligne de ceux qui attaquent se trouvent des soldats particulièrement fiables qui deviendront des hommes du NKVD plus tard, chargés de tirer à la mitrailleuse, souvent, même parfois au canon, hein, on verra en 41, sur ceux qui s'enfuient, ceux qui reculent sans ordre.
Ce qui n'est pas non plus sans précédent et ce qui n'est pas sans postérité, puisque les férus de parallèle historique remarqueront qu'on a vu ça se produire quelquefois récemment encore.
Oui, mais il y a des armées qui ont très peu pratiqué ce. Je vois par exemple l'armée allemande de la Première Guerre mondiale, c'est assez stupéfiant. Je crois qu'il y a eu au total de 48 fusillés pendant toute la Première Guerre mondiale. C'est remarquablement peu, alors que cette armée s'est désagrégée à partir de septembre 1918, l'étape, et il y a des centaines de milliers de déserteurs. Mais on ne fait pas tourner la machine à fusiller.
Alors, les nazis d'ailleurs s'en souviennent et eux vont augmenter considérablement. Ils vont être sur le même modèle pratiquement que l'armée rouge du point de vue numérique
pour empêcher les
défections. Ouais.
Donc on va fusiller de plus en plus, on va mettre des bataillons d'arrêt, puis on va utiliser quand même un moyen terrible qui est la responsabilité des familles. Et c'est cette responsabilité des familles qui va retenir beaucoup de ne pas passer à l'ennemi. Hein, donc en général, si on passe à l'ennemi, on peut être sûr qu'il y a des répercussions terribles sur sa famille, et notamment le fait que l'État lui retire toute aide et tout soutien dans un régime totalement étatisé. Vous conviendrez que ça équivaut à une mort sociale complète. Hein.
Pour continuer un petit peu sur ces originalités de l'armée rouge par rapport à ses homologues dans d'autres pays, l'armée rouge ne recrute pas initialement des femmes combattantes dès son origine, mais la question se pose plutôt qu'ailleurs, et puis ensuite elle devient plus massive qu'ailleurs, avec près de 500 000, je crois, combattantes. Vous consacrez un article aux snipeuses soviétiques de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on peut dire de la place des femmes et de l'originalité, finalement, de cette composante féminine de l'armée rouge dans l'entre-deux-guerres et pendant la Deuxième Guerre mondiale?
Oui, parce que durant la guerre civile, bon, alors elles existent, hein, j'ai un chiffre qui tourne, là, qui est de 40 à 60 000, c'est-à-dire moins de 2% des effectifs. Pendant la guerre civile, il y a des cas de femmes commissaires politiques. Il y a d'ailleurs un très beau film qui a été fait dans la fin des années 50 qui s'appelle La Commissaire. Sur ce sujet, donc il y a quelques femmes dans cette première armée rouge. Elles vont quasiment disparaître dans l'entre-deux-guerres. On les voit plus. Et en fait, c'est la nécessité qui les fait réapparaître. C'est-à-dire, c'est les pertes massives de 41-42 qui amènent tout simplement le commandant de l'armée rouge à piocher dans le réservoir des femmes pour leur faire remplir toutes les tâches qui n'ont pas à être occupées par des hommes, ce qui libère ces hommes pour le front. Alors, ces tâches, on les connaît, c'est essentiellement des tâches de soutien. C'est les infirmières. Mais pas seulement infirmières à l'hôpital, c'est-à-dire brancardières, les taux de perte sont monstrueux. Elles vont chercher les blessés sous le feu. C'est vraiment un truc terrible. Les transmissions sont féminisées à 60 ou 75%. Imaginez, c'est pareil, on tire des câbles, on tire des fils téléphoniques sous le feu de l'ennemi. C'est absolument destructeur. On les voit beaucoup en chauffeur. Elles règlent la circulation. On connaît tous ces images de filles avec les joues bien pleines qui jouent du fanion pour maintenir la police routière. Et il y a quelques unités de combat.
Ça, il y a même des aviatrices.
Ça, c'est l'originalité de l'armée rouge. Elle est la seule armée au monde qui fait combattre les femmes, notamment les aviatrices de nuit, les fameuses sorcières de la nuit qui étaient à deux sur leur petit biplan PO2 qui allait réveiller les soldats allemands en lâchant des petites bombes de 50 kilos toutes les 10 minutes, vraiment, qui était un truc qui jouait terriblement sur le moral des Allemands. Il y a une unité de char et il y a une unité de chasse avec une as qui s'appelle Litvak et qui a, je crois, une douzaine d'avions allemands en son actif. L'ensemble est difficilement chiffrable. On a toujours des chiffres qui sont entre 500 et 1 million. Mais il est certain que c'est la première fois dans l'histoire qu'une armée embauche autant de femmes. C'est vrai qu'on ne le verra plus. Elles repartiront toutes pratiquement en 45. Et aujourd'hui, l'armée russe a un taux de féminisation très inférieur à celui des armées occidentales. Donc c'est vraiment, je pense, la situation de saignée démographique de 41 et 42 qui explique cet appel massif aux femmes, plus que l'idéologie féministe.
L'idéologie, c'est quand même une condition de possibilité, parce qu'il y a d'autres pays dans cette situation dramatique du point de vue des effectifs qui n'ont pas du tout ce recours massif. Donc il y a quand même, on est dans une structure officielle qui promeut, qui l'utilise à des fins de propagande. Il y a quand même un discours qui l'appuie.
Qui est là en 18 et qui est moins là en 39. Parce qu'il y a quand même eu la réaction familialiste du stalinisme, mais c'est vrai qu'il reste quelque chose de ce féminisme des années 20 qui avait mis quand même l'Union soviétique à l'avant-garde. Autorisation de l'avortement, légalisation automatique des unions libres, facilité du divorce, dépénalisation de l'homosexualité, création de crèches collectives, ils étaient en avance sur ce plan-là. Ils étaient obligés de faire machine arrière pour tout un tas de raisons, d'ailleurs, dont une importante, c'est la casse sociale que l'absence de protection juridique des femmes peut entraîner. Hein, on voit toujours le côté répressif du mariage et patriarcal, mais c'est, on ne voit jamais le côté protection. Donc, je vous rejoins, le cadre idéologique a pu contribuer.
Je signale juste à ce propos que vient de sortir en français un livre d'Olga Bronikova, Mathieu Renaud, Kolontai, Défaire la famille, refaire l'amour, sur ce personnage très emblématique de ce premier féminisme bolchevique des années 1920, future ambassadrice soviétique Alexandra Kolontai, c'est paru aux éditions La Fabrique.
Justement, puisqu'on est toujours sur la structure de cette armée rouge et que vous avez mentionné cette saignée de 41 à 42, ce désastre, mais qui va être paradoxalement assez rapidement retourné parce que l'URSS avait déjà posé les bases du grand démarrage industriel, notamment, qui va permettre de retourner la situation et de l'emporter sur le front de l'Est finalement. Vous attardez beaucoup dans le livre sur les penseurs de cette structure et sur les débats, notamment doctrinaux et stratégiques. Alors est-ce qu'on peut peut-être présenter les grands penseurs structurants à la fois du désastre qui construisent l'armée rouge qui va connaître le désastre de 41-42 et puis aussi qui, mine de rien, ont donné des bases pour la remontée en puissance?
Alors, ce ne sont pas des penseurs qui vont permettre de restructurer l'armée rouge en 41-42. C'est une génération qui a subi un certain type d'éducation. En gros, la génération des 1000 officiers promus par Staline au généralat en juin 1940, ce sont tous ceux qui vont commander l'armée rouge de 41-45. Ces hommes ont une particularité, ils ont, je dirais que 60 à 70% sont passés par les académies de l'armée rouge et ont donc suivi une éducation opérative, celle qui a été posée dans les linéaments intellectuels ont été posées par Svetchine, et qui va faire en sorte que ces hommes ont une saine compréhension de ce que c'est que la guerre mécanisée moderne. L'Union soviétique est avec l'Allemagne nazie, et l'Angleterre l'a été avant eux, mais elle a abandonné cette voie au début des années 30. Mais les Allemands, enfin, la Wehrmacht et l'armée rouge, ont en commun d'avoir réfléchi à grande échelle à la notion de guerre mécanisée et quelles conséquences ça peut avoir sur la structure des opérations. Donc cette armée, elle va, avec cet encadrement qui, entre parenthèses, comme vous le savez, a été amputé pendant la grande purge de 37-38, mais ceux dont je parle sont de 40, donc ce sont des gens qui n'ont pas été touchés par la grande purge.
C'est les remplaçants, en quelque sorte.
Ce sont les remplaçants, et ce sont ceux qui ont la meilleure éducation, ce qu'on ne dit jamais quand on parle des grandes purges. Les grandes purges éliminent les héros de la guerre civile, essentiellement, et non pas ceux qui vont encadrer la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette cohorte de 1000 généraux, elle va se redresser par essai et erreur en observant leur adversaire. Hein, il y a une célèbre missive, une célèbre directive de Joukov, deux jours avant qu'il ne quitte l'état-major général de l'armée rouge. Donc nous sommes aux alentours du 15 juillet, alors que c'est déjà la déroute sur les trois axes de pénétration des Allemands. Il envoie une directive à Shaposhnikov, qui dirige après lui l'état-major général et qui est le conseiller de Staline, où il dit « Le problème de notre armée, c'est l'insuffisance de l'encadrement et le gigantisme. Autrement dit, nous n'avons pas assez d'officiers compétents, surtout pour commander les monstres que nous avons créés. » Un seul exemple, un corps mécanisé soviétique, ça représente 1000 chars. 1000 chars, ça fait 5 fois une division Panzer. C'est complètement ingérable avec une armée qui a des officiers qui sont très peu instruits et qui surtout n'a pas de moyens de télécommunication. L'Union soviétique est très en retard en matière de traitement électrique et électromagnétique. C'est vraiment, ils sont très en retard. Donc, le plan de Joukov est très simple. C'est là où on avait des corps géants de 1000 chars. On va fractionner tout ça. On va avoir des divisions de 200 chars. C'est encore trop. Et on va arriver petit à petit jusqu'au niveau de la brigade, c'est-à-dire 60 chars qu'on peut pratiquement, j'exagère, commander avec une estafette comme en 1917. Hein. Mais pratiquement une estafette à vélo ou à cheval pour aller de l'un à l'autre, ou comme l'armée française de 40. Donc il y a une espèce de réduction de la taille. Et puis il y a aussi, c'est terrible, mais il y a une sorte de sélection naturelle qui se fait, c'est que ceux qui survivent ont une fonction d'apprendre, de faire passer leur expérience aux plus jeunes, et petit à petit, en cédant également des erreurs colossales, les erreurs stratégiques des Allemands, cette armée rouge va réapprendre complètement son métier. Et heureusement pour elle, Staline aura l'intelligence de comprendre que fusiller ne sert à rien. On n'est plus pendant la guerre civile. Il va commencer comme ça en juin-juillet 1941. Il va fusiller, notamment Pavlov, le commandant du front de l'Ouest. Et puis il va comprendre que ces officiers généraux ne sont pas à la hauteur des Allemands. Il faut leur laisser le temps d'apprendre, et donc le droit à l'erreur. On ne fusille donc plus, je dirais, à partir de 1942, on ne fusille plus en haut dans la hiérarchie, mais en bas, évidemment, on continue.
Alors en bas, justement, parce que là, on a vu par le haut avec ses penseurs, ses généraux, ses maréchaux aussi. Hein. Je rappelle le livre que vous avez écrit avec Lacha Haute-Mézuri, les maréchaux de Staline. Mais si on se place au niveau du troupier, je me demandais, en vous lisant, vous en avez quelques exemples, qui serait l'équivalent dans l'armée rouge d'un Stakhanov pour la production industrielle? C'est-à-dire, qui est-ce qu'on met en avant comme la figure du bon soldat, du soldat courageux, du héros de guerre? On a cité Litvak, l'as féminin, mais il y en a d'autres qui servent d'ailleurs à plusieurs fonctions, parce qu'en fonction de du contexte de guerre, du moment, on peut promouvoir tel ou tel type de figure. Alors, qui est-ce qu'il y aurait dans ce panthéon des héros de l'armée rouge?
Il y en a des centaines.
Il y a des quantités, bien sûr, mais est-ce qu'il y en a qui sont emblématiques?
Il y a Gleb Panfilov, par exemple, qui a été... il y a Pavlov à Stalingrad, qui ont été mis avant. Il y a le célèbre sniper Vassili Zaïtsev, dont Jean-Jacques Hano s'est emparé pour faire...
Stalingrad avec du
Le Stalingrad qui vaut pour les 15 premières minutes, hein, qui sont remarquables, puis après, je crois.
Alors, Panfilov, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui en fait un héros?
Ce sont des gens qui. Ça a été très bien démonté, ça, par les historiens russes et occidentaux. Ce sont des hommes qui ont une action remarquable, individuelle. C'est incontestable. Il y a quelque chose, il y a un noyau de vérité dans l'histoire, mais. Beaucoup de ce qui est dit sur eux est faux, complètement faux, comme sur Kalachnikov, hein. C'est complètement, ou Stakhanov, c'est totalement inventé pour les besoins de la propagande. Je dirais que la plupart des héros de l'armée rouge sont quand même des héros essentiellement anonymes. Et puis, il y a une réticence dans l'armée rouge à promouvoir les individualités de cette façon. C'est même vrai pour les décorations. On préférera toujours promouvoir un collectif. C'est-à-dire...
C'est quoi souvent, les décorations, d'ailleurs?
Eh bien, alors là, la plus ancienne, celle qui est créée en 18 pendant la guerre civile, c'est l'ordre du drapeau rouge. Mais il y a autant d'ordres du drapeau rouge qui sont attribués à des individus qu'à des collectifs, c'est-à-dire à des unités. Il y a beaucoup de régiments, de divisions, de corps qui s'appellent du drapeau rouge. Leur deuxième grande décoration, ça doit être au début des années 30, c'est l'étoile rouge. Qui est également une décoration, enfin qui va prendre en fait la place du drapeau rouge. Et après, ça se multiplie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça ne se multiplie pas n'importe comment. Il y a d'abord une super décoration, qui est héros de l'Union soviétique, hein, qui est vraiment certains l'auront cinq fois, comme Joukov, je crois que ça doit être le recordman. Et puis des distinctions qui s'adressent aux officiers, mais qui, comme la vieille distinction tsariste de Saint-Georges, se déclinent en classe, première classe, deuxième classe, troisième classe. C'est l'ordre de Kutuzov.
Souvarov, donc le maréchal, qui a fait face à Napoléon. C'est pas inintéressant comme symbole.
Souvarov, donc celui qui affrontera les républiques françaises en 1796 en Italie. Kutuzov, Souvarov, Alexandre Nevsky, évidemment, celui qui arrête les chevaliers teutoniques au lac Picpus. Et puis le quatrième ordre, qui est un super ordre. Alors lui, il a été donné qu'une quinzaine de fois, c'est Pobieda. C'est l'ordre de la victoire, qui est l'ordre qui doit être créé à la fin 43. Ces ordres sont là pour redonner confiance en lui, à l'encadrement. Dans la deuxième partie de la guerre, Staline revient un peu sur les positions égalitaristes, malgré tout, hein, qui restent de l'époque révolutionnaire, et promeut et redonne un certain nombre de privilèges aux officiers. Par exemple, il réintroduit ce qui a fait hurler, ça. Il y a un courrier énorme qui est déposé aux archives à Moscou, lorsqu'il décide qu'un officier ne doit pas porter de paquet en public. Donc il lui faut un planton, un aide de camp, appelez ça comme vous voudrez, qui porte ses paquets.
Une ordonnance.
Ouais, une ordonnance. Il porte les paquets. C'est un retour, mais en revanche, on le verra plus.
On a tout à fait l'impression de voir une consigne tsariste, effectivement.
Oui, et il réintroduit les fameuses épaulettes d'or que les soldats arrachaient en 1917. Il réintroduit les épaulettes d'or. En revanche, évidemment, toute la cascade des Votre Excellence, Votre Honneur, etc. de l'époque tsariste sont complètement oubliées. En théorie, le vouvoiement, tutoiement, alors ça reste extrêmement vague parce qu'on a des cas où les soldats, tout au moins ceux qui ont une éducation bolchevique, tutoie le camarade maréchal de l'Union soviétique, tu nous as promis que... On voit ça. Et puis souvent, on voit réapparaître le vouvoiement, mais de façon très spontanée. Mais on dirait qu'on ne punira pas un soldat parce qu'il a tutoyé son officier, même en 1945. Après, c'est fini. Après, c'est fini. L'armée rouge se fossilise, enfin l'armée soviétique va s'institutionnaliser.
Alors justement, puisque vous parlez du collectif, c'est aussi très intéressant. Est-ce que vous pourriez, je vais vous demander, quelle est votre unité préférée de l'armée rouge ?
Mais moi ?
Ouais, par exemple. Enfin, c'est vous qui êtes là, mais en tout cas, une unité que vous auriez envie de mettre en avant, notamment vous consacrez un article, je crois, à la 2e armée blindée de la garde, dont vous suivez tout le parcours depuis la création, tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce qu'il y a une unité, un collectif, qui vous paraît particulièrement intéressant ?
Il y a des unités qui étaient... Il y a des unités qui sont emblématiques d'une bataille. Je pense à la 13e division à Stalingrad. Tous les soviétiques la connaissent, qui est en majorité constituée de parachutistes. Mais celles qui sont les plus célèbres, en fait, c'est celles qui ont donné la victoire à l'armée rouge. Hein. C'est les 6 armées blindées. Parce que c'est finalement l'aboutissement de 3 années de tâtonnements qui ont été la plupart du temps malheureux, mais finalement l'armée rouge arrive à un modèle d'unité qui est capable d'agir au niveau opérationnel et même au niveau stratégique. C'est les 6 armées qui, encore une fois, vont l'amener de Stalingrad à Berlin. Alors les commandants de ces armées sont étaient archi connus des soviétiques. La première armée, c'était Katoukov. La deuxième armée, deuxième armée blindée de la garde, dont on dit qu'elle était la favorite de Staline, c'était Bogdanov. Après, il y avait 3 Ukrainiens, entre parenthèses, les Ukrainiens très présents dans l'armée rouge, toujours, hein, qui étaient Rybalko à la 3e, Lelyushenko, Kravchenko à la 6e, et à la 5e, Rotmistov. Tout le monde connaît ces hommes, parce que ces armées ont été les plus photographiées, les hommes ont été les plus interviewés, les plus décorés. C'est vraiment, je pense, les unités emblématiques. Après, il y a quelques unités de chasse qui ont été, comme celle d'Ivan Kojedoub, qui était également connue à l'époque des soviétiques. Il y a eu une chanson qui a été faite sur lui, il y a eu un film. C'est le Guinmer soviétique.
Si on se déplace un peu, il y a la flotte rouge, il y a des marins rouges. Est-ce que c'est le parent pauvre de l'armée rouge en termes de prestige d'importance ? On sait qu'au début de la révolution bolchevique, les fusiliers marins, notamment de Lettonie, ont joué un grand rôle. Il y a eu Kronstadt après. Qu'en est-il de la place de la flotte dans le dispositif militaire soviétique et puis aussi même dans l'imaginaire soviétique ? On a l'impression que ça reste en retrait.
C'est très en retrait. Bon, ça, il y a l'explication géopolitique et une tarte à la crème. On a faire un État massivement continental dont le sort s'est jamais joué sur les mers, mais exclusivement sur le continent. Hein. Ils n'ont pas eu à affronter les flottes de Napoléon ni la Kriegsmarine, mais des armées de terre. Donc ça, c'est normal. Néanmoins, le tsar, lui, avait une ambition, comme Guillaume II, avait une ambition navale, mondiale, incontestable, sauf qu'il a perdu sa flotte à Tsushima et à Port Arthur. Donc on repart de zéro en 1906. Les premiers crédits sont 1908.
Ça, c'est la guerre russo-japonaise de 1904-1905.
Oui. Donc, quand éclate la révolution, il n'y a pas grand-chose. Ce pas grand-chose va être complètement anéanti, tout simplement parce que les officiers sont tous blancs et désertent. Ils passent tous dans les armées blanches. Quant aux marins, comme ce sont de véritables soldats professionnels, ils vont être mis à terre. Hein, ils ont joué un rôle majeur, on le sait, dans le coup d'État bolchevique de novembre 1917. Mais on va les retrouver partout sur le front. Donc il n'y a plus de flotte. Le reliquat de la flotte de la mer Noire est sabordé en mars 18 à la demande du grand État-major allemand. Il coule devant Novorossiysk. On connaît celle de Scapafou avec les Allemands en 18, mais les Allemands ont obligé les Soviétiques à faire la même chose devant Novorossiysk. Hein, ils ont coulé la flotte. Et puis je crois que le reste sera ferraillé en 1922 par les bolcheviks. Il faut après monter une flotte. Alors cette flotte, elle va monter, il va falloir faire des choix.
Y compris une flotte fluviale.
Alors, c'est ça la nouveauté. C'est que cette flotte, elle est essentiellement une flotte de défense côtière. Hein, ça va être des petites unités légères et des sous-marins. Et puis alors la grande spécialité soviétique, qui était déjà une spécialité russe, c'est la flotte fluviale. Vous connaissez un peu la géographie de la Russie, on connaît tous ces fleuves absolument gigantesques qui sont souvent interconnectés par des canaux ou par des marais, comme dans le cas du Pripet. Et les soviétiques ont comme ça 6 flottes qui vont jouer un rôle absolument majeur dans différentes campagnes, notamment la dernière contre les Japonais en Mandchourie.
La marine brune.
La marine brune, comme on la nommera en Indochine, puisque là, ce sera une des spécialités françaises aussi, c'est cette marine qui peut, par les fleuves, monter très loin. On oublie par exemple que pendant la bataille de Berlin, aux surprises, sur l'Oder et l'Achepray, il y a une petite marine soviétique qui vient appuyer les troupes de Joukov, en plein cœur de Berlin, en plein cœur de Vienne également. En se disant, mais comment sont-ils là? C'est la flotte de...
C'est la bateau russe sur le Danube.
Oui. Oui, bien sûr, par le Danube, côte à connecter, et on va monter jusque très très loin. Et c'est encore le cas, hein, c'est encore le cas en Extrême-Orient. La flotte russe a des matériels qu'elle est la seule à développer, matériel de type fluvial.
Alors, si on passe maintenant, on va évidemment pas faire d'événementiel, ça n'a pas de sens à l'échelle du format et à l'échelle de ce livre, mais quand même, s'il fallait parler un peu de bataille quand même, est-ce que vous avez une bataille un peu méconnue, une victoire méconnue, ou une bataille importante un peu oubliée de l'armée rouge qui vous viendra en tête?
Les Soviétiques ne parlent jamais de bataille, enfin, c'est juste pour faciliter le langage. Bitva, on ne l'utilise pas, en fait c'est opératier, c'est les opérations, ça fait partie de l'éducation opérative.
C'est très en cohérence avec la pensée de Svetchin que vous détaillez beaucoup, c'est-à-dire le fait qu'en fait une bataille ça ne suffit pas pour des armées modernes à avoir la victoire.
C'est une activité militaire parmi d'autres. Voilà. L'ensemble de ces activités militaires est groupé dans une opération qui reçoit sa direction de la stratégie.
Une fois que ça s'est dit, il y en a quand même eu un paquet.
Alors, il y a eu à peu près 200 opérations importantes. C'est pas exhaustif. J'ai une liste à la maison, je crois que j'arrive à 223, 224, dont je sais à peu près où elles vont, à peu près ce qui s'est passé. Mais il y en a d'autres sur lesquelles on n'a absolument aucune archive, donc on ne peut rien en dire. Est-ce qu'il y en a qui ont été très importantes et qui ne sont pas connues des soviétiques à l'époque?
En plus, c'est plutôt occidentaux. Pas connues aujourd'hui hein, pour les gens qui nous écoutent.
Oui, pour nous.
Oui, alors à ce moment-là, il y en a qu'une à citer, c'est Khalkhin-Gol. Je pense que alors, ça s'explique facilement. Donc je resitue en août-septembre 1939, dans un coin complètement, mais vraiment au bout du monde, à la frontière entre la Mongolie extérieure et la Mandchourie, un corps renforcé, 56e corps renforcé, en fait une armée soviétique dirigée par un homme que personne connaît à l'époque, qui est Georgi Joukov, écrase deux divisions de l'armée japonaise dans ce qui n'est au départ qu'un simple incident de frontière dont aucune des deux parties ne veut qu'il dégénère en guerre. C'est donc une guerre limitée dans laquelle les Japonais sont sûrs de l'emporter. Il y a un transfuge très célèbre du NKVD qui est passé dans leur rang en 1938 et qui leur a décrit les malheurs et toutes les faiblesses de l'armée rouge. Ils sont sûrs de l'emporter et ils prennent une raclée absolument mémorable. C'est très important cette bataille parce qu'elle va provoquer une vague de suicides dans l'armée japonaise et elle va donner le pas auprès de l'empereur à la marine et non pas à l'armée de terre. Or, la grande option traditionnelle de l'armée nippone, c'est normal, c'est l'expansion continentale, c'est-à-dire la Mandchourie, la Sibérie orientale et la Chine. Le fait qu'elle perde l'oreille de l'empereur va remettre la marine impériale à l'honneur, et elle, son option, elle est tout autre. C'est évidemment le sud-est asiatique, et ce qui va la mettre sur la route de collision avec les États-Unis, puisque les Philippines sont la clé du sud-est asiatique. Alors, pourquoi on ne la connaît pas? On ne la connaît pas, cette bataille, tout simplement parce qu'elle a été recouverte par les événements très graves qui se passent en Europe au même moment. Elle est exactement contemporaine de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est passée inaperçue. J'ai trouvé un petit papier dans le Times, qui doit faire une colonne, où vraiment, on ne sait rien. On ne sait absolument rien, si ce n'est que le 15 septembre, les Japonais discutent avec les Soviétiques pour la première fois depuis longtemps et se mettent d'accord sur un cessez-le-feu. On reconnaît le tracé de la frontière soviétique. C'est une humiliation terrible pour le Japon et ça a des conséquences considérables. Ça n'a pas les conséquences qu'on a souvent dites, à savoir ça va permettre à Staline de ne plus redouter une guerre sur deux fronts. Non, Staline ne se découvrira jamais en Extrême-Orient. Il y aura jamais moins de 700 000 à 1 million de soldats soviétiques postés en Sibérie pendant toute la Seconde Guerre mondiale, y compris pendant la bataille de Moscou.
Inversement, cette victoire un peu méconnue, d'ailleurs qu'on connaît parfois sous son nom japonais, Nomonhan.
Nomonhan.
Moi, je me souviens d'avoir lu ça dans des vieux bouquins, chez Calvin Gold, j'ai découvert notamment en vous lisant. À côté de ça, quelle serait la défaite la plus retentissante? Alors évidemment, dans l'année 1941, il y en aurait sans doute toute une série à choisir. Toute la campagne. Mais voilà, mais si on devait isoler un moment, peut-être, révélateur d'échecs ou d'incompétence. Alors, on a parlé de Tsushima, mais c'était sous les tsars. On pourrait parler de Tannenberg aussi, qui était quand même, en termes d'échecs, absolument tragique. Voilà, du côté de l'armée rouge, quel serait le pire fail, pour parler
russe? Mars. C'est probablement l'opération Mars. Et c'est d'autant plus étonnant qu'elle est dirigée par Joukov lui-même.
Ce qui n'empêchera pas d'avoir ces 5 ordres de héros de l'Union soviétique.
Catastrophe absolue, puisque elle est contemporaine de la bataille de Stalingrad, ce qui a bien arrangé la propagande soviétique, parce que ça a permis de l'occulter totalement.
Donc ça, rappelons peut-être, c'est l'opération 4 planètes. Alors, à ce moment-là, c'est-à-dire c'est autour du siège de Stalingrad, l'idée qu'il y a deux fronts, deux attaques qui vont être menées, avec deux opérations emboîtées à chaque fois potentiellement.
Disons que... au début septembre 1942, quand il apparaît évident que les Allemands ont eu les yeux plus gros que le ventre et qu'ils n'arriveront jamais jusqu'à Bakou, ils sont déjà englués dans le Caucase, ils n'arrivent même pas à passer l'école. Dans l'entourage de Staline, donc Chapochnikov, mais à l'époque surtout déjà Vassilievski, qui est le dauphin de Chapochnikov et qui a pris la place à la tête de l'état-major général, et Joukov, qui est l'adjoint direct de Staline, émettent l'idée que on a maintenant peut-être suffisamment de force. Si on arrive à faire durer la bataille de Stalingrad, la bataille défensive, on peut gagner 2 mois. Pendant ces 2 mois, on peut monter une série d'opérations qui sont emboîtées les unes dans les autres comme des poupées russes, hein. C'est le cas de le dire, qui sont les 4 planètes, Mars, Uranus, Saturne et Neptune. Donc on a ces quatre opérations, chacune couplée 2 par 2, localement, chacune engendrant sa jumelle en quelque sorte. Donc, en même temps que se déclenche l'opération Uranus, la bataille de Stalingrad doit se
Uranus, c'est le double enveloppement.
Double enveloppement de la 6e armée allemande.
Pour coincer la 6e armée allemande dans Stalingrad.
Dans Stalingrad et aux alentours, et où elle sera complètement détruite. Parallèlement, Mars doit détruire la 9e armée allemande qui se trouve dans un saillant, le saillant de Rzhev, qui est à 180 km seulement de Moscou. C'est donc c'est un problème pour Staline. 180 km de Moscou, et il a parfaitement deviné que si Hitler s'obstinait à y entasser autant de monde, c'est parce que un jour ou l'autre, il a l'espoir de reprendre l'assaut vers Moscou. Et il n'a pas tout à fait tort. Donc, il charge Joukov, d'ailleurs en fait c'est Joukov qui le persuade, qu'il faut liquider ce saillant et l'armée qui s'y trouve, la 9e. Donc, on a les deux offensives qui vont se déclencher. En novembre, aux alentours du... Alors, attendez que je dise la date exacte. C'est le 19 novembre 1942. On déclenche Uranus autour de Stalingrad. Et 10 jours plus tard, se déclenche Mars autour du saillant de Rzhev. Autant Stalingrad est un triomphe, difficile, hein, très durement acquis, autant Mars est un échec affreux, tellement affreux qu'il a été dissimulé par la propagande jusqu'au début des années 90. Il faut attendre l'ère Yeltsin pour voir les premiers documents arriver, et traduits ou pas, et un certain nombre de volumes d'ordres publiés à Moscou. Et alors, c'est
de la manière dont vous le décrivez, c'est assez étrange parce que Stalingrad, donc c'est une grande plaine, et effectivement l'opération marche bien. Rzhev, c'est des bois, des marais, des collines, voilà, etc. Et quand on vous lit, on se demande un peu ce qui a piqué Joukov de vouloir lancer un grand mouvement d'enveloppement dans ce genre de coin.
Oui, c'est probablement une des erreurs. En plus, il y a la desserte ferroviaire et routière est absolument catastrophique. Il a cru que ses corps mécanisés allaient faire la différence. En réalité, ils se sont fait piéger, comme toujours avec les Allemands. Ils ont réussi à faire ce qu'on appelle des pénétrations en doigt de gant, c'est-à-dire une pénétration extrêmement étroite, qui fait environ 30 km de long, et qui évidemment invite les Allemands à se concentrer sur les flancs, à les sectionner à la base et à faire des encerclements. Et c'est exactement ce qui va se produire. Normalement, Joukov aurait dû en rester là. Sauf qu'il s'obstinait. Il a relancé trois fois Raskolnikov et Konev à l'assaut. Le résultat, c'est au moins 100 000 morts. Vous vous rendez compte ? 100 000 morts. C'est fou, quoi. En un mois et demi, 200 000 blessés. Ils perdent 2 500 chars. Après coup, les généraux ont fait plier un certain nombre dans les années 90. Et puis l'historien russe Isaïev ont dit « Ah ben oui, mais ça a servi de d'attracteur. Ça a permis aux Allemands. On a attiré les Allemands pour faciliter la victoire de Stalingrad. » Non, on n'a jamais vu une diversion qui emploie plus d'hommes, de chars et d'avions que la bataille dont elle est supposée éloigner l'ennemi. Non, c'est une bataille en soi avec ses objectifs et un échec absolument terrible. Encore aujourd'hui, des associations de volontaires russes, c'était un truc très à la mode dans les années 90, sont notamment dans la vallée de la Loukéza, et partout ils trouvent des fosses communes. Mais c'est absolument partout, c'est un spectacle macabre, effroyable, on n'en finit pas. Il y a toute une flopée de livres qui sont sortis dans les années 95-2005 en Russie, puis aujourd'hui on n'en entend plus parler, hein, parce que l'heure de ce genre de déballage est aujourd'hui passée en Russie. Mais c'est l'opération Mars, pour moi, c'est le fiasco majeur de l'armée rouge.
Si des hommes et des batailles, on passe aux équipements, on va vous lancer un challenge un peu difficile. On va vous donner trois armes soviétiques emblématiques de la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut les classer par ordre d'importance pour gagner la guerre. Alors, il y a évidemment le T-34, le char, il y a le lance-roquette Katyusha, et puis on a choisi l'avion d'attaque au sol Shturmovik. Alors, si vous deviez dire 1, 2, 3, comment vous les classez ?
Oh, ce serait, je pense, assez facile, ce serait le T-34 dans ces deux versions, T-34-76, T-34-85, qui est beaucoup plus à même de faire face au dernier matériel allemand.
Auquel il y a un très bel article qui est consacré, où vous montrez toutes ces limites immenses.
Immense, notamment l'absence d'ergonomie. En fait, en même temps, les coups de génie, comme la section oblique, découverte trigonométrique d'un ingénieur russe, le moteur remarquable.
La section oblique, c'est dans le blindage à l'avant, ouais. Ils orientent légèrement le blindage d'une manière intéressante, ce qui fait que, en fait, les projectiles ricochent, ouais. Ont plus de chances de ricocher que de pénétrer.
Une simple équation trigo vous montre que ça augmente mécaniquement de 30%. Un blindage de 40 devient un blindage de 52, quoi. Ou de 56, c'est automatique, c'est vraiment une découverte remarquable. Les chenilles, le moteur diesel, enfin, il a énormément de choses pour lui. Mais
il y en a beaucoup aussi.
Pardon ?
Il y en a beaucoup.
Il y a la masse, alors c'est toujours le problème de l'armée rouge, masse et qualité. Il y a la masse, mais il n'y a pas la qualité des équipages. Et pourquoi il n'y a pas la qualité des équipages ? Bien sûr, on va me dire parce qu'ils sont formés trop vite. Oui, et pourquoi ils sont formés trop vite ? Parce qu'ils meurent trop vite. Donc, il n'y a pas d'accumulation de compétences.
Alors, un T-34.
Et deux...
juste, et ce qu'il y a de très frappant, c'est que vous montrez très bien que jusqu'à la fin de la guerre, un bataillon de T-34 face à un bataillon de chars allemands,
impossible.
Ils se feront éclater à chaque fois, notamment parce qu'il n'y a toujours pas de liaison, ils n'ont pas du tout ni la discipline, ni la coordination. Mais la masse est telle que ça finit par le faire.
La situation char contre char, elle est finalement relativement rare. La plupart du temps, c'est une bataille interarmes. Même les chars allemands tout seuls, ils vont pas loin. Hein. C'est la grande erreur qu'on fait. On s'imagine que la Seconde Guerre mondiale, c'est des combats comme les chevaliers, des chars qui se tirent. Non, c'est un ensemble interarmes. Il y a de l'artillerie, il y a de l'aviation, il y a des grenadiers ou des fusiliers qui tournent autour. Mais quand on les engage seuls, on est presque sûr qu'on va à la catastrophe. C'est que les Soviétiques ont eu du mal à comprendre ça. Il leur a fallu du temps, notamment parce qu'ils n'ont pas d'industrie automobile développée. Et qu'ils n'ont pas d'infanterie mécanisée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le half-track des Américains ou le SDKF des Allemands qui permet aux fantassins de se mouvoir sur le champ de bataille avec une relative protection. Hein, c'est ça la mécanisation du champ de bataille par opposition à la motorisation qui concerne le mouvement mais pas le combat. Donc les Soviétiques n'ont jamais eu cette mécanisation. Résultat, qu'est-ce qu'ils font ? Les soldats les entassent sur les chars. Vous connaissez tous ces images. Vous les voyez par 14 ou 16 agrippés. Alors, imaginez, par moins 30, ça devait être absolument une partie de plaisir. Ils sont sur les superstructures du char, donc évidemment, ils sont pas protégés, et c'est très, très insuffisant. Les Américains vont livrer quelques milliers en 44, mais d'abord, c'est trop tard, et ce sera pas assez. Donc, le T-34, ensuite, le Shtourmovik. Le Shtourmovik, qui est un avion, un monomoteur à hélice, relativement lent, mais qui a la caractéristique d'avoir un dessous blindé. Il a un dessous blindé, c'est un semi-piqueur. C'est-à-dire, c'est pas comme un Stuka, un truc qui tombe à 90 degrés comme une pierre sur son objectif en hurlant. C'est un appareil qui plonge à 45 degrés, donc qui est fait pour prendre en enfilade. C'est un appareil très bien fait, qui a donc ses plaques de tôle qui fait qu'il est capable de résister aux petites desserres allemandes. 20 mm, 23 mm, ça rentre pas, ça ricoche. Évidemment, au-delà, ça ne marche plus. Il est en version mono avec un mitrailleur ou pas un mitrailleur. Donc lui, c'est incontestablement une des armes de la victoire. Dès qu'ils auront bien pris la mesure des Allemands et que surtout, ils auront compris qu'ils ne peuvent pas aller à l'assaut sans une escorte de chasse, c'est un avion qui va révéler tout son potentiel. Et la troisième, vous me disiez, c'était...
Katyusha
secondaire. Secondaire parce que...
Malgré le côté iconique, malgré la chanson...
Oui.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня не пишет, и лети за ясным солнцем свет, и войцу на дальнем пограничье под Катюши передать привет. И войцу на дальнем пограничье под Катюши передать привет.
Малгré la chanson, bon, c'est un lance-roquettes multiple. Alors, il n'est pas du tout précis. Il y a un taux de dispersion hallucinant.
Et on disait aussi les orgues de Staline.
On dit aussi les orgues de Staline, oui, c'est ça. Mais c'est secondaire par rapport à l'artillerie. Alors que c'est plus vrai aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ça s'est équilibré. Il y a énormément d'armées russes aujourd'hui, il y a énormément de lance-fusées. Mais là, ils ne sont pas assez nombreux. Les Allemands en ont, on n'en parle jamais. Un autre principe, mais c'est les Nebelwaffer aussi qui fonctionnent bien. Mais je dirais c'est une arme secondaire. On en parle beaucoup parce qu'elle a frappé les Allemands dans la mesure où elle est terrorisante. Comme la sirène du Stuka, les orgues de Staline, c'est un bruit de fin du monde. C'est l'apocalypse, c'est épouvantable, c'est une arme de saturation. C'est-à-dire que si elle tombe sur un terrain de football, vous en mettez quatre sur un terrain de football, tout ce qui vit est réduit en viande hachée. C'est quelque chose de terrible. Mais c'est un gros truc de dispersion. Là, il y a une autre arme emblématique qu'il faudrait qu'on pourrait peut-être citer, qui est une arme portative d'infanterie, qui est tellement bonne que les Allemands vont les récupérer sur les soviétiques prisonniers ou tués. C'est le PPSH-41, ce qu'on appelle le Spagin, qui est la mitraillette ajourée en tôle emboutie. C'est une révolution technique, la tôle emboutie, et ça permet d'avoir un prix très très bas, ils vont construire des millions, et son chargeur est un camembert. Donc elle est très emblématique, c'est l'arme emblématique, je dirais, du soldat soviétique, c'est le PPS-41 Spagin autour du cou, on les voit très souvent avec ça.
Un dernier,
qui est resté cher au cœur des soviétiques et qui n'est pas un matériel soviétique, c'est le Studebaker américain, qui est le camion 6-6 dont les Américains ont livré près de 400 000 exemplaires et qui a permis de motoriser massivement l'armée soviétique en 1900, à partir de 1943.
Sur lesquels ils ont 44. Mis des Katusha aussi, d'ailleurs.
sur lesquels on montait tout ce qu'on voulait, parce que pour la première fois, ils avaient un camion d'une mobilité extraordinaire, standardisé, fiable, consommant des essences de mauvaise qualité. Enfin, vraiment, il y avait tout ce qui leur manquait. 400 000, c'est 2 années de la production automobile soviétique d'avant-guerre, pour vous donner une idée de ce que ça représentait.
Alors maintenant, si on repasse des matériels aux hommes, et toujours aux hommes à côté de ces héros qui ont été beaucoup célébrés, s'il y avait un biopic à faire sur un général, ou pas forcément un général d'ailleurs, soviétique, qui n'a pas été fait, ou en tout cas qui n'est pas connu en Occident, ce serait quoi pour vous ?
Et pourquoi ce ne serait pas Méclis ?
Ah là là ! Lev Méclis, la terreur des officiers de l'armée rouge, qui a été rédacteur en chef de la Pravda,
qui était le commissaire
des commissaires politiques, c'est une véritable terreur. Staline lui a tapé sur les doigts en 42, mais ne l'a jamais démis. C'est un des fidèles. Staline est fidèle, hein. Une fois passé 38, il est relativement fidèle. Méclis n'a jamais véritablement été embêté. Non, on peut faire un biopic sur Méclis, bien sûr. Pourquoi pas ?
L'ordure.
Je pense que ce serait quand même difficile. C'est le seul homme qui a abattu un général soviétique d'une balle en pleine tête devant tous ses hommes, sans avoir aucune autorisation, ni même l'avoir fait passer devant un semblant de tribunal. Non, c'est...
C'était qui le général ?
C'est un général d'artillerie sur le front de Leningrad. C'est quand même... c'est dur à avaler. Non, il y a des personnages... Il y en a un qui s'appelle... alors, dans les personnages secondaires, il y a peut-être Alexandre Rodimtsev, qui était le commandant en chef de la 13e division de la garde, celle qui va s'illustrer à Stalingrad de façon absolument extraordinaire. Et lui, il a un très beau parcours, parce qu'en fait, on l'appelait Pablito. Parce qu'il était, il a fait la guerre d'Espagne, pas mal d'ailleurs.
Capitaine Pablito.
Ouais, d'officier de l'armée rouge. Lui, il a un très beau parcours. Il a été en Chine.
Grand artisan du siège de Madrid, notamment.
Oui, bien sûr. Mais c'est là qu'il a appris la guerre urbaine. Hein. Vous avez également le lion de Stalingrad, Chuikov, hein, avec sa crinière, sa gueule, sa trogne de soudard vérolé, alcoolique, qui est un grand chef incontestable, très violent. Et notamment très violent, il a repris quelque chose de l'ancienne armée tsariste. Il se permet de battre ses subordonnés. Mais c'est un personnage flamboyant qui est vraiment... Alors lui, ça fera un biopic, mais alors il faudrait, je ne sais pas quel réalisateur il faudrait pour mettre en scène ce personnage, on voit bien Depardieu, même si on n'a plus le droit de parler de lui aujourd'hui. Je vois bien Depardieu dans son rôle, ou un personnage, ou alors là, comment s'appelle-t-il, cet acteur espagnol, Javier Bardem. Il a là un peu la trogne. Bon, lui, c'est un bel exemple. Sinon, de façon plus classique, je pense que Vassili Bucher, qui est un des grands héros de la guerre civile, et qui deviendra quasiment vice-roi de Sibérie avant d'être abominablement torturé et de mourir sur la torture en 38, et puis Constantin Rokossovski, ce géant d'une beauté incroyable, polonais, son père polonais, sa mère russe, qui a des aventures incroyables en Mongolie, où il est un des hommes qui monte l'armée mongole, c'est un des plus grands cavaliers de la Révolution, et en 1938, il est arrêté, il est torturé, on lui brise toutes les dents. Et puis, en 40, il est sorti sans aucune explication. Ça, c'est le stalinisme dans toute sa splendeur. On lui paye un séjour sur la mer Noire. On lui refait les dents avec de l'acier. J'imagine que ça lui donne un drôle de sourire. Et puis, il va faire un parcours extraordinaire. C'est un des plus talentueux officiers de la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu à Koursk, où il a vraiment bloqué la pince nord de l'attaque allemande. C'est lui qui liquide Stalingrad. C'est lui qui est le maître d'œuvre de l'opération Bagration. C'est lui qui aurait dû prendre Berlin. Mais Staline lui a fait comprendre que Berlin ne peut pas être pris par un Polonais, même un demi-Polonais. Il faut que ce soit un Russe bon tas. Il a choisi Zhukov. Mais lui, je pense que ce serait le biopic le plus intéressant.
À vieux producteurs qui nous écoutent, alors pour rester un petit peu dans ce domaine, on va vous demander, peut-être pour terminer, il y a beaucoup de films hein, qui représentent, qui mettent en scène l'Armée Rouge. Parmi les biopics d'ailleurs, qui ont eu un immense succès à l'époque, il y avait Tchapaïev, qui était ce film
oui, sur un film de 34, oui.
Le grand héros de la guerre civile, qui oui. s'est noyé en essayant d'échapper à l'Armée Blanche, et Staline se le faisait projeter, et Poutine a déclaré récemment
que c'était son film préféré.
Voilà, bizarrement. Alors, du coup, bon, Tchapaïev, on peut le voir d'ailleurs sur YouTube, on voit des extraits, c'est assez intéressant. Mais il y a eu évidemment beaucoup de films sur l'Armée Rouge. Alors qu'est-ce que vous conseilleriez? Il y a des films russes, il y a des films occidentaux.
Alors,
si on devait faire un top 5 de la filmographie sur l'Armée Rouge.
Alors je rejetterais moi toutes les productions russes des 25 dernières années qui sont de la gloriole nationaliste qui, à mon avis, n'a pas le moindre intérêt. Moi, ce que dans ma filmographie, alors c'est pas sur l'Armée Rouge, mais c'est sur plutôt le motif de la guerre qui s'impose. Plus que l'armée en tant qu'institution, c'est la guerre, notamment la Grande Guerre patriotique. Je pense que ce sont les grands films qui ont été faits pendant la période du dégel de Khrouchtchev, quand tout à coup la censure s'est abaissée un peu la garde. Et ce que je pourrais vous citer, tout à l'heure je parlais de la commissaire, qui a un très beau film sur une femme commissaire politique qui est enceinte pendant la guerre civile, qui est un film très très fin. Il y a la balade du soldat de Tchoukraï, qui est un de mes films préférés. C'était tous ces films qui cessent de mettre en scène ce pseudo-héroïsme de masse du peuple soviétique et qui se penchent un peu sur la réalité des combattants. Évidemment, il y a la Palme d'Or à Cannes, quand passent les cigognes de Kalatozov en 58, ça, on peut pas l'oublier. C'est un véritable, avec Tatiana Samoyoleva, c'est un truc magnifique. Et puis le grand film de Tarkovsky aussi sur l'enfance d'Ivan. Tout ça, c'est la même époque, hein. Ça doit être 61, 62. Donc pour moi, c'est les films du dégel. C'est la période la plus belle du cinéma de guerre soviétique. Côté occidental, ben, tout le monde va vous citer Croix de fer de Sam Peckinpah. Mais bon, moi, je trouve pas ça très intéressant.
Bah, sinon, il y a le Stalingrad aussi.
De Hanno.
Alors, non, je pensais pas à celui d'Hanno, je pensais à celui de...
Celui de 93, de ouais. L'allemand, là.
Ouais.
Ouais.
Il y a évidemment la poursuite d'Octobre Rouge, mais c'est pas tout à fait l'Armée Rouge, ni même
c'est la marine.
Voilà, la marine, et c'est la marine de la guerre froide. Mais,
ouais, c'est la marine de la guerre froide.
Sean Connery est l'un des meilleurs officiers russes tout en étant écossais.
De Wilsmeyer.
Wilsmeyer, oui. Alors, le film est de 93, je crois. Hein. Il a été fait pour le 50e anniversaire de la bataille. C'est un film plein de bons sentiments. Oui, je pas.
Il vous a pas marqué?
Non, bah, je l'ai vu, hein, bien sûr. Je vais voir probablement tout ce qu'ils ont fait.
C'est vraiment la 6e armée de Paulus, oui, c'est l'intérieur, qui attend l'écrasement par l'armée soviétique.
Ouais. Il y a de vagues réminiscences d'un bouquin qui était très très connu en Allemagne, surtout en RDA d'ailleurs, mais qui a été aussi traduit en français, qui est un livre remarquable sur Stalingrad de Théodore Plivia, qui s'appelle Stalingrad tout simplement, qui est l'aventure d'une petite escouade allemande. Ça pour moi c'est un des grands livres, et je crois que Wiesmayer s'est inspiré du bouquin de Plivia, qui était donc un écrivain communiste allemand.
Et peut-être toute dernière question, question d'André, mais qui renvoie aussi à la couverture de ce livre. Qui
c'est une affiche de Dmitri Moore en 1920, Soyez sur vos gardes pour la guerre civile. On voit un soldat rouge, magnifique tenue, repousser du pied les envahisseurs capitalistes. Pourquoi les affiches de l'armée rouge sont plus belles que les autres?
Dmitri Moore, c'est celui qui a fait Pourquoi ne t'es-tu pas engagé, qui est le pendant soviétique du I Need You. Uncle Sam Needs You, hein, la fameuse affiche.
Ouais, ou Lord Kitchener.
Voilà, c'est ça. Et qui était la reprise américaine de Kitchener. Mais je trouve... Pourquoi elles sont plus... Alors, c'est vraiment très subjectif, mais...
Il y a quelque chose. Hein,
il y a quelque chose.
Alors, un graphisme particulier.
Essayez de rassembler mes idées sur la question. D'abord, pourquoi avoir consacré autant de moyens à l'affiche? Je pense que c'est essentiellement parce que les bolcheviks savent qu'ils s'adressent à une population rurale qui est massivement analphabète. Donc c'est pas l'écrit, c'est l'image qui doit frapper. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, il y a très peu de... elle n'est pas envahie par la phrase, par le verbe. C'est souvent l'image. Hein, c'est comme le vitrail. C'est l'image qui doit raconter toute l'histoire. Donc ça, c'est un premier élément. Il faut parler à une masse analphabète et il faut lui parler dans des termes graphiques. Le deuxième point, c'est cette charte graphique, elle est très curieuse. Elle est souvent, vous l'avez remarqué, celle-là est colorée, celle que vous avez montrée qui est sur la couverture du bouquin de Perrin. Mais en général, c'est du noir et du rouge. Ce n'est pas des affiches imprimées en quadri, ce sont des affiches lithographiées. Et pour aller plus vite, bah, deux passages, c'est bien, une couleur puis une deuxième couleur. Donc c'est très souvent une contrainte technique. Le style lui-même, je dirais qu'il tient aux hommes qui faisaient ces affiches. Je vous parlais de Dmitri Moore. Il y avait Rodchenko qui sera très connu dans les constructivistes, Je vous rappelle que Mayakovsky a signé beaucoup d'affiches également, le poète.
Oui, ça rencontre aussi les avant-gardes.
Vous me l'avez enlevé de la bouche, ce sont les avant-gardes futuristes, donc ceux qu'on appellera les futuristes, et l'avant-garde russe des années 10 à 15, qui s'est retrouvé, qui est passé massivement du côté de la Révolution et qui a été embrigadé dans cette organisation qui s'appelait Rosta. Rosta, c'est l'ancêtre de l'agence TASS, ça veut dire, c'est l'acronyme russe de Agence Télégraphique Russe, et c'est elle qui a monté des collectifs de travail d'affichistes qui véritablement avaient à cœur de travailler pour le peuple avec un certain nombre de slogans, c'est toujours des slogans, c'est très simple. Et ces affiches étaient propriété de l'État soviétique, les arracher pouvait entraîner la peine de mort. C'est quelque chose de presque sacré, j'allais dire iconique, mais ce serait malvenu d'employer ce mot-là en Russie, mais c'était vraiment quelque chose qui inspirait le respect. Ils ont tenté, avec des trains, ils ont tenté du cinéma populaire, mais c'est compliqué, il y a peu de moyens, le nitrate est réservé aux explosifs, donc il n'y a pas de pellicule, les liens commerciaux avec l'Occident sont coupés, les usines ne tournent plus, donc il y a très peu de cinéma, finalement, encore une fois, le seul art de l'image qu'il leur restait, c'était cet art de l'affiche. Et ça restera beau, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Même avec le stalinisme, ils ont gardé cette tradition d'agit-prop, de faire travailler de véritables artistes. Kazimir Malevitch, commissaire du peuple à la culture de la République fédérative de Biélorussie, a été également un affichiste. C'est un très grand artiste, un des grands constructivistes. Tous ces gens-là ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes et c'est vrai que ça nous donne quelque chose de très beau, au final.
Merci beaucoup, Jean Lopez.
Vous ne parlez pas des chansons ?
Ah.
Alors bon, on va en mettre en générique.
Vous allez en mettre
en générique, évidemment.
Non, laquelle vous allez
allons-y.
Choisir ?
Bah, je ne sais pas.
C'est vous qui choisissez.
C'est quoi votre chanson soviétique préférée ? Enfin, votre chanson de l'armée rouge préférée.
Qu'est-ce qu'écoutaient les soviétiques ? Alors, ils écoutaient un grand tube international qui date du 19e siècle, qui est du folklore tzigane, dont Mikhalkov a fait un film qui s'appelle Les Yeux Noirs. Bon, il y a aussi une version de Django Reinhardt à la même époque. On va dire que ça, c'est un peu. C'est pas très russe, c'est du folklore tzigane. Il y a une deuxième chanson qui est extrêmement connue, qui est de 38, qui est Katyusha, que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'elle donnait son nom.
À ce stade de l'émission, elle aura probablement déjà passé.
Oui. Et puis, la chanson, alors ça, c'est un pur produit de Barbarossa. Elle sort 4 jours après le 22 juin. C'est Guerre sacrée. Guerre sacrée, qui est un hymne militaire extrêmement viril, très scandé, que les Russes chantent, mais qui est plutôt officiel. Je crois que la grande chanson, celle qui fait pleurer, vous pouvez la voir sur YouTube, c'est « Sombre est la nuit ».« Sombre est la nuit », qui est jouée à la guitare, qui était chantée par, j'ai oublié son nom, c'est pas Devers ou Revers, j'ai oublié le nom de ce grand chanteur populaire soviétique qui est un peu le... qui était un peu... On ne peut pas le comparer à personne, mais peut-être à un Brassens, mais en plus, avec une voix plus personnalisée. C'est Sombre est la nuit, qui est vraiment qui est la chanson que connaissent les soldats russes, soviétiques, pardon. Attention, je fais une erreur très grave. Les soldats soviétiques ne sont russes qu'à 50%. C'est une armée multinationale dans laquelle les Ukrainiens entrent pour 15 à 20%. Dans le contexte actuel, si vous permettez, je m'autocorrige.
C'est évidemment important. On choisira peut-être, ceci dit, une chanson de la guerre civile comme Krasnaya Armaya, Tcherny Baron,
oui.
Qui est notre favorite à tous les deux avec Alexandre.
Sans blague, Tcherny Baron.
Merci beaucoup, Jean Lopez.
Mais oui, vous ne voulez pas essayer d'écouter le Sombre et la nuit ?
Si, bien sûr.
Très belle,
on va encourager nos auditeurs à le faire. On pourra même faire une playlist Spotify avec ces meilleures chansons. Merci beaucoup, Jean Lopez.
Je vous en prie.
C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez et distribué par Binge Audio. On vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, d'Alexandre, de moi-même, qui sont toujours les bienvenus, tout comme les notes, commentaires, notamment sur iTunes, Spotify, tous les outils qui aident à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз.